Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
C'est parti pour vos deux heures d'expertise du monde de votre argent. C'est BFM Patrimoine qui vous accueille comme chaque jour de 10h à midi et on file tout de suite sur les marchés. Antoine Larigauderie nous attend au siège d'Euronext à La Défense. Bonjour Antoine, que se dit-on sur les marchés pour débuter la semaine?
Bonjour Cédric. Bon, un peu comme l'environnement, on est dans le brouillard là. Un CAC 40 qui est en léger repli, moins 0,26%, on est à 6626 points, un petit début de semaine. Bon, enfin, il faut dire qu'on sort d'une très belle séance de vendredi, une séance à sorcière qui était importante techniquement parce qu'on a pu prendre des paris pour les semaines à venir et le sentiment était largement positif. Hein. On a clôturé sur une hausse d'un petit peu plus d'1%. Cela dit, Wall Street a ralenti la cadence en fin de séance, puis les signaux de marché sont devenus un petit peu plus indécis. On a eu une baisse, notamment des places asiatiques ce matin. Et du côté des indices européens. Donc on commence sur ce léger repli, moins 0,27% pour le CAC 40 qui retombe à 6626 points. On a des replis un petit peu plus marqués du côté de l'Eurostock 50 et encore, moins 0,4%. Et le DAX à Francfort, moins 0,53. Alors à noter, tiens, que les prix à la production du côté de l'Allemagne se sont détendus de manière extrêmement spectaculaire, ce qui explique un petit peu une forme d'indécision de la part des marchés du fait de la violence de la correction sur le mois écoulé. À noter du côté des taux d'intérêt, des taux de 10 ans, que ça a eu relativement peu d'impact, c'est-à-dire que on est sur le même mouvement qu'en fin de semaine dernière, c'est-à-dire que la dette américaine reste vraiment stable du côté des 3,8%, mais on assiste plutôt à une détente du côté européen. 2,48 pour la dette française 10 ans, 2,02 pour la dette allemande, même si ça s'est tendu de quelques points de base depuis l'ouverture aujourd'hui. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne un euro-dollar en baisse assez marqué. On est retombé sous 1,03, 1,0255. C'est un des chiffres importants de la séance. L'autre chiffre important, c'est le pétrole. Hein. Toujours une forte pression baissière et de là à se dire que l'OPEP va peut-être y trouver ombrage et peut-être retrouver de l'énergie pour signaler une volonté de baisser sa production pour faire remonter les cours dans la fourchette de 90 à 100 dollars. En tout cas, 87,15 pour le baril de Brent de mer du Nord. On a perdu 6% sur la semaine écoulée et le brut léger américain est même tombé sous les 80 dollars. On est à 79,74. Alors du côté des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui, à noter Vallourec, très forte baisse, le titre perd 12% après ces chiffres 9 mois. Donc là, les marchés vraiment accueillent ça de manière extrêmement négative. On a tendance aussi à solder un petit peu tous les dossiers considérés à risque sur lesquels il y a beaucoup de volatilité. On a Solution 30 qui perd 5,7% à 1,80€. On a Orpea, moins 4,32 à 7,08€. Et sur le CAC 40, à signaler Téléperformance qui est en baisse en ce moment. ArcelorMittal signe d'ailleurs la plus forte baisse de l'indice vedette à moins 1,97€. 24,58€. Les valeurs techno sont mal orientées aussi. Dassault Systèmes, moins 26 à 35,79. On a également Capgemini, moins 0,8% à 176,55€. En hausse, en revanche, on retrouve Bouygues, plus 0,8% à 29,12. Engie, plus 0,7 à 14,48. Alstom, plus 0,61 à 24,65. La plus forte hausse du SBF 120, c'est pour Ipsen, qui gagne quasiment 4% à 108,10€. Le CAC 40, donc, sur un léger repli, pour commencer la semaine, moins 0,32%. 6622 points. Et l'euro, je vous le disais, 1,0257. À noter des signaux faibles, encore une fois, sur les cryptos. La correction continue. On est tout juste au-dessus des 16 000 pour le Bitcoin. 1119 pour l'Ether et 35 cents pour l'XRP.
Antoine Larigauderie, que l'on retrouve tout à l'heure à 11h pour le suivi de cette séance. Et nous, tout de suite, c'est l'Info Éco avec Stéphane Nicolo.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphane Nicolo.
Et à la une, c'est l'assurance chômage et le gouvernement qui va présenter la nouvelle réforme ce matin. Objectif, moduler les règles d'indemnisation en fonction de la conjoncture. Et selon les informations de BFM TV, si le taux de chômage est inférieur à 9% ou si le chômage baisse pendant 3 trimestres consécutifs, la durée d'indemnisation sera réduite d'environ 25% pour tous les chômeurs, y compris les plus de 55 ans. En revanche, si le taux de chômage est supérieur à 9% ou s'il augmente de plus de 0,8%, 1% sur un trimestre, eh bien, les règles d'indemnisation seront identiques à celles d'aujourd'hui. Les conditions d'accès, elles, ne changent pas. Il faut avoir travaillé 6 mois sur une période de référence de 24 mois. Le nouveau guichet unique ouvert par le gouvernement depuis ce week-end, il doit permettre aux entreprises qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire de demander les aides de l'État. Pour y avoir droit, la facture d'énergie doit avoir augmenté de 50% sur 3 mois et correspondre à au moins 3% du chiffre d'affaires réalisé l'an dernier. Le montant de l'aide peut aller jusqu'à 4 millions d'euros. On apprend par ailleurs ce matin que l'État accorde un prêt de 15 millions d'euros à Duralex. Le risque de tension sur le réseau électrique sera élevé en janvier, c'est ce qu'indique RTE. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité est moins optimiste qu'EDF sur le redémarrage de certains réacteurs nucléaires. Une quinzaine d'entre eux, parmi les plus puissants, seront encore arrêtés début janvier. En Allemagne, les prix à la production ont baissé en octobre de plus de 4%. C'est une surprise, hein, puisque les économistes tablaient sur une augmentation de 0,9%. C'est lié à un recul des prix de l'électricité et du gaz naturel. Sur un an, les prix ont tout de même augmenté de près de 35%. On en vient à la faillite d'FTX. La plateforme d'échange de crypto-monnaies doit un peu plus de 3 milliards de dollars à ses 50 plus gros créanciers. Le nouveau patron a lancé ce week-end une revue stratégique des actifs du groupe. Alors, y a-t-il un risque systémique sur les marchés avec la chute de FTX? Écoutez Marianne Barbalayani, la nouvelle présidente de l'AMF. Elle était l'invitée de Good Morning Business ce matin.
Il faut raison garder. Quand on parle de risque systémique, ça serait effectivement une grande crise financière, etc. On n'en est pas du tout là. Ce qu'on essaye de savoir avec les interrogations qu'on a envoyées, c'est les acteurs qui sont sur le marché français, ouais. Quelle est leur exposition à FTX? Mais je parle des acteurs crypto. Ouais. Et puis avec un certain nombre d'univers de finances traditionnelles qui peuvent avoir investi dans les cryptos. Pour l'instant, c'est assez limité d'après ce qu'on peut savoir, mais c'est effectivement un point d'attention. Il faut qu'on regarde ça.
Marianne Barbalayani, la nouvelle présidente de l'AMF, était donc l'invitée de Good Morning Business. Les autres rendez-vous de la journée sur notre antenne, pardon, à 18h15, vous pouvez retrouver Pascal Gauthier, le PDG de Ledger. Il est l'invité de Good Evening Business. 19h30, vous avez rendez-vous avec Louis Gallois, le coprésident de la Fabrique de l'Industrie. Enfin, on terminera cette journée en parlant musique et technologie avec André Manoukian dans Tech & Co. Ce sera à partir de 20h35. Et puis, la vague de départ au sein de Twitter se poursuit. Ce week-end, c'est le patron de Twitter France, Damien Viel, qui a annoncé sa démission après 7 années à la tête du réseau social. Il n'a pas précisé si ce départ était sa décision ou non, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. Nous, on se donne rendez-vous à 11h pour suivre cette info éco. Dans l'intervalle, on file sur les marchés pour s'intéresser à vos placements actions.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Xavier Milvaux nous attend chez Tiepolo. Bonjour Xavier.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Vous nous proposez ce matin de jeter un œil sur Infotel. On commence par un petit portrait.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une entreprise française de services informatiques et de logiciels. Elle est toujours gérée et contrôlée par ses fondateurs. Alors, l'intérêt de ce secteur, bien sûr, c'est évidemment toujours l'accélération de la transformation digitale des entreprises. Ça fait plusieurs années que ça dure et qu'on en parle, mais ça ralentit pas, au contraire. La spécificité d'Infotel, à l'origine, c'est son expertise sur les bases de données. Et ce qui fait son intérêt, c'est sa capacité à gérer sur de très longues périodes des projets structurels pour ses clients, qui sont toujours de très grosses entreprises dans tous les secteurs, beaucoup dans la banque, mais aussi dans l'industrie. C'est intéressant car la plupart du temps, Infotel se retrouve quasiment irremplaçable, tant les projets sont primordiaux, deviennent vitaux et nécessitent une très grande proximité. Du coup, il faut savoir qu'ils n'ont quasiment jamais perdu de clients depuis la création, il y a un peu plus de 42 ans. Évidemment, ils en ont gagné beaucoup. Tout ça souligne des barrières à l'entrée qui nous semblent plus importantes que chez beaucoup de concurrents ou comparables. D'une manière générale, 2/3 de l'activité sont réalisés par des contrats pluriannuels, forfaitisés et reconductibles, donc la visibilité est très forte.
Justement, quel état des lieux peut-on faire d'Infotel aujourd'hui?
Alors pour ce qui est des chiffres, c'est résistance et croissance, hein. Rapide retour sur l'année 2020 qui avait été l'année Covid, elle s'était soldée par une très belle résistance du chiffre d'affaires avec un tout petit moins 5%. En 2021, ça avait rebondi tout de suite de 12%, ce qui les plaçait déjà au-dessus de 2019. Et actuellement, la croissance perdure, elle reste particulièrement soutenue. Le premier semestre de cette année 2022 s'est soldé par une croissance de plus de 15%. Et le troisième trimestre, qui a été récemment publié, a fait ressortir une croissance de plus de 13%, donc toujours parmi les tout meilleurs du secteur. Ce chiffre d'affaires, il devrait arriver à peu près à 300 millions d'euros, autour de 300 millions d'euros pour l'année entière, avec une marge opérationnelle solide d'un peu moins de 10%. Et à plus long terme, le plan récemment dévoilé prévoit d'atteindre plus de 380 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026, avec une marge de plus de 10%.
Puisque vous nous projetez un peu en avant, justement, est-ce qu'on a des perspectives? Est-ce que le management est disert là-dessus?
Oui, tout à fait. Alors, au-delà de cette croissance qu'on peut continuer à attendre, ce qui va se passer à l'avenir est tout aussi passionnant. Ce qui nous intéresse parmi d'autres choses, c'est l'activité logicielle, alors qui représente 4% seulement du chiffre d'affaires aujourd'hui, mais elle est en train de s'étoffer. Il faut savoir qu'il travaille depuis 3 ans sur un projet nommé Orlando. C'est une documentation électronique pour toute l'industrie aéronautique, hein, aussi bien les avionneurs que les compagnies aériennes. Alors, c'est encore petit, encore que ça représente 2 millions de chiffre d'affaires en base annuelle, mais ça monte en puissance. Il signe pas mal de nouveaux contrats, ça montre une accélération et un très bon accueil, surtout, du produit. On pense que la valeur de cet outil est très élevée et que le marché ne la valorise absolument pas pour le moment.
Bon, voilà donc pour quelques explications à avoir en tête. Après, il y a aussi toute la partie valorisation, parcours récent du titre. Comment vous digérez tout ça et quels commentaires on peut faire ?
Au niveau de cette valorisation, justement, le titre, il nous semble qu'il se paye encore sur des niveaux tout à fait raisonnables, puisqu'il se paye tout juste comme le secteur pour une qualité qui, comme je viens de le dire, nous semble supérieure. Compte tenu de la croissance à ratio constant, on a déjà un très bel actif capable de se valoriser entre 10 et 15% par an, et à ça, c'est sans valoriser bien sûr l'accélération dans les logiciels qui sont très relutifs sur les marges et donc qui doivent se valoriser nettement plus que le reste. Donc il faut ajouter ça. Et dans le contexte actuel, qui reste mouvementé et volatile, hein, on pense qu'un Fautel est un bon investissement qui offre donc, comme je l'ai dit, qualité, croissance, visibilité et même dividende.
Voilà donc un Fautel passé au crible ce matin depuis Tiepolo par Xavier Milvaux. Et si on regarde un petit peu les analystes qui suivent cette valeur, eh bien ils ont une recommandation d'achat et un objectif de cours moyen de 60,40 €, ce qui ramènerait donc le titre un Fautel sur ses plus hauts de plusieurs années, puisque pour le moment le sommet des 5 dernières années tourne autour des 58,30 €. Cours inégalé hein, depuis tout ce temps. Le titre qui, ce matin, est en hausse de 2% à la Bourse de Paris. 51 € pour le titre Infotel dans un marché en repli, lui, de 0,25% pour l'indice CAC 40, le CAC 40 qui est à 6630 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et c'est Bruno Cavalier que l'on rejoint chez Oddo BHF. Bruno qui nous accompagne chaque lundi. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. L'agenda de la semaine nous offre un panorama assez intéressant et surtout assez large, puisqu'il y aura énormément d'indices PMI, que ce soit d'ailleurs un peu partout. Quels sont ceux qui vont retenir le plus votre attention et surtout qu'allez-vous surveiller dans ces indicateurs ?
Alors effectivement, ces enquêtes de confiance auprès des directeurs d'achat, mais aussi les enquêtes nationales en France et en Allemagne, je crois que la question que tout le monde a quelque part en coin de sa tête, c'est est-ce qu'on s'approche du point bas ? Il y a deux raisons de se poser la question. D'abord, ça fait maintenant un an que la plupart de ces indicateurs sont en repli. Hein. Ça a même commencé avant la guerre en Ukraine. Évidemment, après la guerre en Ukraine, ça s'est fortement accéléré. Bon, on se dit, au bout d'un an... devrait avoir pris en compte toutes les mauvaises nouvelles. Enfin, en tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Et deuxième raison de se poser cette question, c'est on voit bien ce qu'ont fait les marchés financiers ces derniers temps. Les acteurs des marchés financiers sont à la recherche de bonnes nouvelles, quitte à parfois surinterpréter ou surréagir lorsque les nouvelles, sans être absolument excellentes, sont un peu moins mauvaises qu'attendues. On a bien vu, dès lors qu'on a un petit peu spéculé sur la fin de zéro Covid en Chine, où on a commencé à se dire qu'aux États-Unis, l'inflation voilà, était vraiment en train de partir vers le bas et donc que la Fed allait devenir moins agressive. Ou même en Europe, lorsqu'on regarde l'évolution des prix de l'énergie, on se souvient le sommet stratosphérique du mois d'août, bon, on a quand même largement revenu de tout ça. Donc, il y a cette interrogation. Une année 2022 qui se termine, qui a quand même été marquée par beaucoup de mauvaises nouvelles. Est-ce qu'on en voit la fin? Bon, je voudrais rappeler quand même que l'économie réelle, c'est un animal qui bouge quand même plus lentement. Il y a quand même pas mal d'inertie. Je pense que le renchérissement des factures énergétiques pour les entreprises va continuer de se faire sentir dans les prochains mois, les prochains trimestres. Que la crise énergétique en Europe, ça me paraît comme un peu présomptueux de dire qu'elle est déjà terminée. Et donc voilà, je crois que c'est avec ce regard-là qu'on essaiera d'interpréter ces informations. À défaut d'avoir déjà un point bas, si déjà la baisse mettait à ralentir, on se dirait que c'est peut-être l'amorce, le début d'une peut-être lueur d'espoir à venir pour 2023.
Voilà donc pour ces indicateurs qui vont émailler la semaine un petit peu partout, gros morceaux, mercredi. Et puis, pour les aficionados de Banque Centrale, on aura des minutes à la Fed et à la BCE. Et au petit jeu de well pivot où en est-on dans l'ascension des taux, c'est toujours intéressant de décortiquer la pensée ou la substantifique moelle des réunions de politique monétaire.
Alors, les minutes en tant que telles, bon, nous apprennent rien, mais elles sont juste l'occasion de se demander comment la communication des banques centrales a évolué depuis la dernière réunion, il y a en gros 3 semaines, 1 mois. Bon, aux États-Unis, depuis la réunion qui était le 2 novembre, ce qu'on a entendu, et en particulier la semaine dernière, c'est quand même pas mal de gens à la Fed. Et si on ramenait un petit peu les marchés sur terre, sur le thème, bon, on a eu un bon chiffre d'inflation, il en faudra plusieurs, on est ouvert peut-être à ralentir le rythme des hausses des taux, on n'est pas encore ouvert à l'arrêt des hausses de taux. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir concernant les États-Unis. Concernant l'Europe et la Banque Centrale Européenne, là, pour le coup, on n'a même pas de bons chiffres sur l'inflation. On a continué d'en avoir de mauvais, continué de surprendre à la hausse. Et Madame Lagarde, à la fin de la semaine dernière, nous a rappelé que non seulement il fallait, je reprends leur terme, normaliser, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je reprends leur terme tel quel, donc en gros avoir déjà des taux à 2%, mais que sans doute il faudrait même aller au-delà de la normalisation, autrement dit avoir une politique restrictive. Donc le discours quand même à la BCE reste quand même assez agressif, et on a tout au long de la semaine pas mal de membres allemands du Conseil des gouverneurs qui sans doute viendront nous rappeler cette tonalité quand même assez dure.
Voilà donc quelques idées sur ces banques centrales également. Donc deux éléments marquants cette semaine, les PMI et ces minutes de banque centrale. Merci Bruno d'avoir disséqué tout ça pour nous depuis Oddo BHF. Le marché parisien reste en tendance négative pour le moment. On perd 0,18%, 6632 points.
Rendez-vous exceptionnel. Jeudi, BFM Business poursuit son tour de France et s'installe à Lille. Venez à la rencontre de tous ceux qui font rayonner l'économie depuis les Hauts-de-France. Dès 6h, Good Morning Business sera au rendez-vous et à midi, 60 Minutes Business fera le point sur l'actualité de la région. Le tour de France BFM Business en direct de Lille, jeudi. Une journée exceptionnelle sur BFM Business. Votre rendez-vous avec Temporis, réseau national de travail temporaire et de recrutement en franchise depuis plus de 20 ans. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Romain, Cœur de Roi.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin Jean-Baptiste Mortier. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être avec nous ce matin pour le groupe clé On fait un petit portrait de Clay.
Oui, alors Clay, c'est un groupe de co-living. Donc, nous avons des résidences de co-living en France destinées aux étudiants pour une partie et aux jeunes actifs pour une autre partie, une vingtaine de résidences étudiantes et résidences jeunes actifs qui vont sortir pour les premières l'année prochaine à Toulouse et à Paris.
Et en gros, là où ça coûte cher, quoi.
En gros, là où on a un besoin de logement, mais on va y revenir.
Justement, comment se porte ce marché ou ce secteur,
Ouais, c'est un secteur, un marché, je sais pas très bien. Ce serait bien que l'État le définisse d'ailleurs, hein, parce que on sait pas bien où est-ce qu'ils mettent le logement aujourd'hui dans leurs priorités, alors que on a quand même bien tendance à imaginer qu'un jeune qui démarre dans sa vie a besoin d'être encadré un petit peu dans ses premières années d'études. On ne le décrète pas autonome à 18 ans, donc c'est bien d'imaginer qu'il soit un peu encadré. Puis quand il est jeune actif derrière, imaginez aussi qu'il puisse être recruté. Mais pour être recruté, il faut savoir où on peut habiter. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour ces jeunes actifs. C'est un vrai enjeu, le logement de demain. On parle de ces jeunes actifs, on parle de ces start-upers un peu partout. Le président va sur les plateaux de Vivatech. Enfin, on fait tout un foin autour de ça pour des jeunes qui montent leur boîte, qui n'ont pas forcément encore de salaire ou pas beaucoup de salaire et qui ne savent pas où habiter. Pour moi, c'est un enjeu majeur de recrutement des entreprises et c'est un enjeu majeur de développement de l'entrepreneuriat en France.
Mais parce que c'est pour ça que je reviens quand même sur les besoins et sur le principe même du co-living. En fait, l'idée de démarrage, il y a quelques années, quand on a vu émerger ça vient des États-Unis. L'idée, c'était de dire, on mutualise tout un tas d'espaces pour réduire au minimum, j'ai envie de dire, l'intimité. C'est-à-dire, on a quoi ? Une salle de bain, une chambre, et puis tout le reste est mutualisé.
Pas tout à fait, ça peut, mais pas tout à fait. Nous, nos résidences, c'est une programmation qui est variée et qui va d'un studio, je parle pour les jeunes actifs, qui fait 23-24 mètres carrés, jusqu'à un appartement qu'on peut prendre avec ses copains en coloc. Et en fait, ce co-living, ou en tout cas ce logement qui est destiné à ces jeunes, on a dû le faire évoluer au cours des derniers mois, des dernières années. Le rapport au logement a complètement changé depuis le Covid, depuis l'installation quasi mécanique du télétravail. On a revu la chambre, on a revu l'organisation, on a revu les espaces communs. Il n'y avait pas d'espace de coworking ou de travail dans les résidences de co-living hier, on a dû en faire. Il n'y avait pas forcément dans ces studios de petits bureaux, vous le disiez, les studios étaient un peu plus petits. Aujourd'hui, il y a des petits bureaux parce qu'on peut aussi faire du télétravail chez soi. On a revu totalement le rapport au logement. Évidemment, l'environnement a changé et on doit se caler à ce que le jeune devient. Nous, notre enjeu, c'est que le logement corresponde à un besoin et à un usage. Le besoin, il change. Le besoin de l'étudiant, il a changé au cours de ces 10 dernières années. L'usage du jeune actif, il a changé au cours de ces 3 dernières années. Il faut le faire évoluer. Il ne faut pas tartiner du logement partout. Et d'ailleurs, malheureusement, on n'en fait pas assez, puisqu'on a un manque colossal et cruel en France.
Mais du coup, c'est moins cher ou pas, le co-living ? Parce qu'à chaque fois, ça a toujours été la question. À un moment, on nous a dit que c'était un peu moins cher. Après, on nous a dit non, mais il y a quand même plus de services. C'est quoi ?
Alors, c'est très simple. Quand vous prenez le loyer moyen du marché d'un studio à Paris et vous faites ce qu'on appelle nous un gros sub, c'est-à-dire vous rajoutez en plus du loyer ce que va lui coûter l'énergie, évidemment aujourd'hui, vous pouvez imaginer quand il va prendre son abonnement EDF ou EDF-GDF, ça va être compliqué, ou Engie, il faut rajouter la box télécom, il faut rajouter un certain nombre de choses, à la fin il arrive à un loyer, ou en tout cas à une charge mensuelle qui correspond exactement à ce que nous on lui propose, all inclusive. Tout inclus. Donc en fait, on est exactement au niveau du marché. On n'est pas du tout là
pour. C'est pas moins cher, mais c'est all inclusive.
C'est all inclusive.
On s'ennuie pas, entre guillemets.
Alors exactement, c'est all inclusive avec en plus chez nous des espaces communs. C'est-à-dire des espaces qu'il peut partager avec ses copains, ce qu'il n'aura pas dans son studio de 25 mètres carrés dans la même ville.
Et là, vous dites, nous, on a trouvé une solution qui répond à des besoins, mais on n'est pas soutenu, puisque dans votre discours, vous avez quand même une espèce de colère en vous, on le sent, hein, sur l'idée de dire, on propose ce qui ne se faisait pas auparavant, on répond à des besoins et aujourd'hui on n'est pas soutenu. Comment on pourrait vous soutenir ?
Alors nous on est soutenu par notre actionnaire qui est le groupe Alpha, qui a très bien compris que cet environnement du logement étudiant ou jeune actif était un environnement absolument majeur et prégnant. Ils sont très liés à l'éducation, ils ont des programmes très très larges sur ces sujets-là. Maintenant moi, la colère que j'ai en moi, c'est pas vraiment une colère, mais c'est plutôt une déception, c'est que on sait pertinemment qu'on a 200 à 300 000 logements qui manquent chaque début d'année en France, qu'on ne fait absolument rien pour aider les promoteurs à les développer, qu'on les gêne plus aujourd'hui d'ailleurs parce que on les empêche de restructurer des bureaux, avec des maires qui nous disent « je ne vais pas changer le PLU à 2 ans et demi hein, des élections municipales parce que il va falloir que j'aille voir ma communauté de communes et tout ça, ça va être le bordel, ils n'ont pas envie de le faire ». Enfin, tout cet environnement n'est absolument pas positif, absolument pas bénéfique et les promoteurs eux-mêmes ont des difficultés à écouler leur propre logement aujourd'hui.
Et du coup, comme acteur de ce monde immobilier et de ce marché, Vous avez imaginé, je sais pas, vous avez un livre blanc, les 110 propositions, les
110,
j'en sais rien. Enfin, vous avez des solutions à apporter ou
mais
des...
On en a beaucoup des solutions. Alors moi, je me présente pas comme le porte-parole du logement étudiant ou co-living en France. Hein, donc, bien entendu, j'ai envie
juste,
d'en faire une cause.
Celle du groupe Clé.
Pardon.
Celle du groupe Clé. Alors, vos propositions, vos solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche mieux?
Alors. D'abord, l'environnement aujourd'hui permet plus aux investisseurs d'acheter du logement. Donc, permet plus trop aux promoteurs d'en développer. Ils en ont toujours à développer, mais ils vont commencer à limiter le développement.
Ouais.
Donc, déjà, si on veut développer le logement en France, il faut permettre aux investisseurs d'investir dans le logement. La montée des taux fait que il y en a beaucoup qui vont plutôt s'intéresser aujourd'hui à des bons du Trésor, à des bons d'État. C'est plus intéressant plutôt que d'aller acheter du logement. Donc, c'est-à-dire que tous ces logements en bloc vont avoir du mal à être écoulés. Il y a encore des stocks colossaux chez les promoteurs. Ça veut dire qu'ils vont réduire probablement dans les prochaines années leur stock et donc arrêter de prendre des positions là-dessus. La deuxième chose pour les particuliers, on vient de limiter leur capacité d'endettement, donc on peut plus aller s'endetter, les taux d'intérêt sont élevés. Je dis pas que le gouvernement en est la cause complète, mais enfin c'est difficile de s'endetter, donc c'est difficile d'aller acheter un logement. Il faut redonner une capacité d'endettement. Enfin, le directeur général de d'Altaria Cogedim en a très bien parlé en parlant des taux d'usure, en parlant de ce taux d'endettement, redonnons une capacité. Et puis il faut quand même que l'État s'y intéresse, quoi. C'est-à-dire que ça fait des années et des années que tous les présidents successifs nous racontent qu'ils vont développer des logements en France, qu'ils ont leur livre blanc de 60 000 logements, ça va être génial, et machin, et les étudiants et tout. On voit rien. Il n'y a rien qui sort. Donc, donnons aussi la capacité aux maires d'aller plus vite pour restructurer des bureaux. On va avoir entre 30 à 50% de vacances de bureaux entre, pour parler de Paris, de Rueil 2000 à Gennevilliers, mais c'est vrai aussi à Lyon, à Bordeaux et un peu partout. Laissons les maires, encourageons les maires à développer des logements destinés à ces jeunes. À Bordeaux, je ne sais pas combien de logements il manque pour les étudiants au début d'année. Ils sont tous devant la mairie à dire où est-ce qu'on habite, avec je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'étudiants à Bordeaux qui ne savent pas où habiter. Donc, donnons cette capacité aux maires. Arrêtons aussi dans l'environnement des élus de se contraindre et d'être dans des espèces de dogmatismes en disant on va pas faire de logement, c'est du béton. C'est pas possible de réfléchir comme ça. Allons évidemment, comme le fait ATSA depuis longtemps, vers la décarbonation. Allons acheter des forêts pour replanter immédiatement dès qu'on construit en bois. Enfin, lançons tous ces programmes-là. Mais faisons du logement. Enfin, c'est fondamental. Les grandes entreprises recruteront plus demain. Vous pouvez plus, vous n'avez plus très envie d'aller travailler à la Défense, mais quand vous pouvez pas vous loger, encore moins. Donc, ça va devenir un argument pour les entreprises pour recruter, hein.
Le plaidoyer de Jean-Baptiste Mortier.
Très fort, quand même.
Ouais, avec passion. Merci d'être passé nous voir.
Merci à vous.
Pour le groupe Clé. À demain, Marie.
À demain.
Pour la vie IMO, le marché reste pour le moment en territoire négatif. Bon, c'est pour pas grand-chose, hein. 0,13% là, 6635 points. Qu'en disent nos traders? On va les interroger dans un instant. Et puis, vous n'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur le site.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Deux traders sont à leur poste pour lire graphiquement la tendance du jour. Jean-Louis Cussac, que l'on retrouve chez Perceval Finance Conseil, et Andrea Twini depuis Saxo Bank. Bonjour messieurs, merci d'être présents ce matin encore pour lire
Bonjour.
La tendance du jour. Andrea, comment faut-il prendre ce démarrage après une séance de vendredi qui était, c'est vrai, un peu particulière?
Ouais, on a un démarrage plutôt en douceur aujourd'hui. On voit des mouvements qui sont assez faibles, on va dire, sur le marché. Mais d'une manière générale, on a l'impression qu'on est sur un plateau. On a un mouvement. Alors certes, on a eu des points bas, des points hauts sur le marché. Mais si on regarde quand même la tendance sur une semaine, par exemple, elle est globalement assez linéaire. On revient toujours sur les mêmes niveaux et on sent qu'il y a une prise d'initiative qui est beaucoup plus contenue et des marchés qui se cherchent un petit peu. Et c'est aussi lié à des catalyseurs qui sont assez dissonants. Alors d'un côté, on a des membres de la Fed qui se sont exprimés récemment et qui sont plutôt dovish. De l'autre côté, on a des membres de la Fed qui sont plutôt hawkish. Et tout se joue en fait justement sur ce niveau des taux. Est-ce qu'on va baisser le rythme de hausse de taux? Est-ce qu'on va baisser à des niveaux un peu plus faibles? Et est-ce qu'on va atteindre un taux final qui sera un peu moins élevé que ce qu'on peut attendre aujourd'hui? Et c'est un petit peu cet enjeu-là qui se joue aujourd'hui sur les marchés. On l'a vu hein, déjà, gros mouvement après les CPI il y a quelques semaines maintenant. Et là, on attend, on va dire, d'en savoir un petit peu plus sur ses intentions de la Fed. Et avec justement ces voix dissonantes du côté de la Fed, ça crée, on va dire, une tendance qui est pas très claire sur le marché. Mais on revient malgré tout toujours sur le même niveau. Et d'où cette idée, on va dire, d'être sur un niveau un petit peu plateau aujourd'hui sur le CAC. Alors certes, on a des niveaux de résistance hein, vers 6675-80. On a aussi une zone de support, on va dire, en dessous de laquelle il faudrait éviter de passer 6535-50. Mais c'est vrai qu'on reste, on va dire, dans ce range là pour le moment. Avec, on va dire, encore une fois, des catalyseurs qui sont assez marqués, qui se tournent autour, en tout cas, de la Fed, de l'anticipation de cette politique de taux. Et c'est vraiment cet enjeu qui se joue sur les marchés. Alors, ce matin, on a aussi des nouvelles du côté de la Chine avec cette politique zéro Covid qui, encore, joue des tours au marché. On avait l'espoir d'avoir une réouverture ou, en tout cas, un assouplissement des mesures sur cette politique zéro Covid du côté de la Chine. Pour le moment, c'est un petit peu mis à mal par les dernières nouvelles et cette flambée des cas et des nouveaux cas de décès qui ont été recensés en Chine. Donc, du coup, ça complique un petit peu la situation et ça perturbe, on va dire, le marché. Il faut aussi rappeler que cette semaine sera une semaine tronquée. On aura Thanksgiving à la fin de la semaine aux États-Unis, donc du coup une séance de jeudi sans les marchés américains et vendredi demi-séance pour les marchés américains. Et donc du coup ça va condenser, on va dire, tout sur quasiment trois séances de trading, avec notamment le mercredi où beaucoup d'indicateurs seront publiés, les PMI aux États-Unis, mais aussi des indicateurs sur la Fed, avec la publication des minutes de la Fed. Donc du coup, on va avoir, on va dire, une semaine un petit peu écourtée, avec peut-être un petit peu plus de mouvement le mercredi, justement avant cette fin de semaine aux États-Unis de Thanksgiving. Mais en tout cas pour cette séance d'aujourd'hui, de lundi, c'est beaucoup plus calme, on va dire, avec encore une fois une prise d'initiative qui est pas très marquée. Si on regarde aussi l'évolution des taux, on avait eu, après la publication des CPI, les chiffres de l'inflation aux États-Unis, on avait eu des taux aux États-Unis, le 10 ans notamment américain, qui avait bien chuté sous les 4%. Là, depuis, on est aussi sur un niveau plateau, on s'est stabilisé, on va pas chercher beaucoup plus bas, donc on voit des obligations qui progressent pas et donc du coup des rendements qui restent sur les niveaux qu'on avait atteints post-publication des chiffres. Et ça aussi, du coup, ça freine, on va dire, potentiellement le potentiel de hausse des marchés. On le voit aussi sur les devises, c'est assez marqué, cette difficulté, on va dire, à trouver le second souffle sur la partie des taux, et donc du coup ce manque de baisse au niveau du rendement et donc du coup notamment du 10 ans américain ne permet pas, on va dire, à l'euro de poursuivre sa progression contre le dollar. Et on voit d'ailleurs le dollar qui reprend du terrain depuis maintenant quelques séances. Donc là aussi tout s'explique, on va dire, par cet attentisme autour de la Fed et par, on va dire, ces voix dissonantes qu'on entend du côté des membres de la Fed. On aura aussi des membres de la Fed qui vont s'exprimer demain, et donc ça aussi ça peut provoquer, on va dire, des mouvements peut-être un petit peu plus importants que ceux qu'on aura sur la séance du jour, qui s'annonce assez calme.
Voilà la lecture proposée par Andrea Twini depuis Saxo Bank. Jean-Louis Cussac, quel est votre diagnostic et votre stratégie en ce début de semaine ?
Alors, toujours l'achat, Cédric, il n'y a pas de changement. J'essaye d'acheter le mieux possible. Ce matin, en première attention, 6605, 3,5 exactement, et on était acheteur potentiellement jusqu'à 5550 pour que le marché conserve un maximum de chances de rebondir. Bon, ben la semaine dernière, ça a plutôt bien fonctionné. Là, pour l'instant, on n'a pas été chercher 5. Alors, on avait, du coup, après, on a payé un peu plus. Et puis, on s'est fait traverser, puisqu'on a payé 15 et on a fait 10 derrière. Bon, c'est rien. Mais, si vous voulez, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis, hop, ça rebondit tout de suite. Enfin, vraiment, des marchés où il n'y a pas beaucoup de densité. 400 et quelques millions d'échangés, c'est pas énorme. On a les LVMH, Sanofi qui freinent la baisse. Les bancaires sont bien orientés également. Bouygues surprend, comme quoi il y a eu quand même peut-être un peu d'excès sur Bouygues. C'est la plus forte hausse, la deuxième maintenant du CAC 40. Alstom est à 1,18. Bon, tout ça, si vous voulez, ça donne pas d'indication forte. Oui, en effet, le marché donne l'impression de piétiner, de pas vouloir y aller. Il manque un catalyseur. Le catalyseur, c'est quoi? Parce que tous ceux qui ont payé ces derniers temps, qu'est-ce qu'ils jouent? Ben, on se pose des questions. Ils jouent peut-être, à un moment donné, le cessez-le-feu en Ukraine. Et puis à ce moment-là, on pourrait dire, tiens, ben ils vont en profiter pour vendre. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, on a chèrement payé, anticipé des flux de nouvelles, notamment sur les taux, plus favorables que ceux qui se dessinent devant nous, et Andrea l'a très bien expliqué. Donc, c'est une situation, si vous voulez, qui ne permet pas de prendre d'initiatives très fortes. Et d'ailleurs, les gérants, souvent en fin d'année, restent plutôt en roue libre, à moins de fortes nouvelles. On n'a pas grand-chose de nouveau, mais c'est vrai que le marché n'envoie pas de signes de faiblesse. Il n'y a pas de conviction vendeuse. On pourrait même penser que tous ces acteurs sous-investissent, sont placés à l'achat sur des replis. À combien? Difficile à dire. Je disais 3-4% de baisse, c'est pas un drame. Donc ça nous amènerait peut-être vers 6450, 6420. Jusqu'à ce niveau de repli, le marché reste dans une tendance de fond haussière, long terme haussière. Donc voilà, on va continuer, si vous voulez, à acheter sur des replis, à faire des écarts, à accumuler des écarts, à être opportuniste et aussi à profiter de la baisse de la volatilité implicite à 17 pour peut-être aussi jouer des opérations options call, notamment lorsqu'on veut jouer des hausses de marché. À noter, l'euro-dollar qui met un peu le genou à terre aujourd'hui. Bon, ça va, c'est pas encore dramatique, mais c'est quand même une première petite alerte.
Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Andrea Tweny, Saxo Bank étaient nos deux traders du jour. Merci à tous les deux pour cette lecture graphique de la séance du jour. Séance qui, pour le moment, se passe sous le niveau de clôture de vendredi soir. On perd 0,2% à 6630 points pour le CAC.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Jour J pour la réforme de l'assurance chômage. Bonjour Nicolas Dos.
Bonjour.
C'est le thème de la polémique du jour. Les ministres du Travail, Olivier Dussopt, reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux pour leur dévoiler les détails de cette réforme. Qu'est-ce qu'on en sait déjà?
Eh bien, on sait à peu près tout. Désormais, le grand principe est confirmé. Il y aura un paramètre qui pourra évoluer en fonction de la météo de l'emploi. Ce paramètre, ce sera la durée d'indemnisation. Les montants des indemnités ne bougeront pas. Les montants mensuels versés aux gens qui sont demandeurs d'emploi. Les conditions d'accès au chômage ne bougeront pas non plus. On reste bien sur 6 mois de travail. Enfin, avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois pour ouvrir des droits à l'assurance chômage.
Ce qui va changer, en revanche, c'est la durée d'indemnisation.
Voilà, tout va se jouer effectivement là-dessus. En période verte, la période où tout va bien, enfin, où tout va mieux, on va dire, eh bien effectivement, la durée sera amputée d'un quart. Ça veut dire que la durée maximale aujourd'hui de 24 mois, ben elle tombera à 18 mois. Au-delà de 53 ans, pour ceux qui ont tous leurs droits, hein, la durée maximale de 24 mois. Si vous avez acquis que 12 mois, ben vous retirez 25% de 12 mois, vous tombez à 9 mois. Voilà. Et il y aura de toute façon un plancher, on va pas en dessous de 6. 6, ouais. Ça, c'est... Mais le minimum de 6 mois est conservé pour tout le monde. Donc celui qui a tous ses droits et qui a 53, 54 ou 55 ans, il passe de 30 mois à 22 mois et demi. Celui qui a plus de 55 ans, il passe de 36 mois à 27 mois dans les périodes vertes. Et dans les périodes rouges, où là, les choses se dégradent, ben on retrouvera les durées d'indemnisation traditionnelles que je viens de vous citer. Alors, point important, celui qui tombe au chômage en période rouge, il retrouve ses 24 mois, par exemple. Si tout d'un coup, on passe en période verte, il reste avec ses 24 mois.
Ah oui.
Voilà. Et puis, il n'y aura pas de modulation entre les régions. Ça a été donc tranché. Il y aura 5 exceptions. Les expatriés, les intermittents, les marins-pêcheurs, les dockers et les territoires d'outre-mer. Il y a donc cette durée minimum à 6 mois qui, elle, sera incompressible. Tout ça, voilà, va être passé par décret en décembre au Conseil d'État pour une entrée en vigueur, normalement, au début du mois de février. Ça ne concernera que les gens qui sont au chômage depuis le début du mois de février. Tous ceux qui sont au chômage avant conservent les anciennes règles. Les règles de la période rouge, si vous voulez, voilà.
La grande question, c'est de connaître le baromètre qui permettra finalement de déterminer si on est rouge ou si on est vert.
Alors là, maintenant, on va s'accrocher 2 secondes, si vous voulez bien. Voilà, connaît ce baromètre, c'est le taux de chômage de l'INSEE. Donc, on passe au rouge si le taux de chômage de l'INSEE dépasse 9%. On est à 7,3% aujourd'hui. Si on dépasse 9%, ou s'il y a une évolution trimestrielle du chômage qui dépasse 0,8%. Par exemple, si je suis à 6 et que je passe à 6,9, ce qui serait un bon colossal, ben là, à ce moment-là, effectivement, passage dans le rouge. Les choses se dégradent vraiment. Même si je suis, en dessous des 9. Voilà. Après, passage au vert. Si je suis sous 9% de taux de chômage, ça, on va dire que c'est le principal marqueur de la bascule. Donc, si je suis sous 9% de taux de chômage, 3 trimestres de suite. Si l'évolution du taux de chômage est inférieure de 0,8 points 3 trimestres de suite. Donc si je suis à 6, que je passe à 6,1, je suis en dessous de 0,8, à 6,2, je suis en dessous de 0,8, à 6,3, je suis en dessous de 0,8, là je reste dans le vert alors que pourtant ça se dégrade. Mais voilà, donc c'est des marqueurs un peu compliqués, c'est évidemment un petit peu technique. Il est clair que là, les 7,3% qu'on vit aujourd'hui avec les tensions de recrutement font que en février, on va très probablement passer en période verte. Donc, on va pouvoir expérimenter cette amputation de 25% de la durée d'indemnisation. Bon, les partenaires sociaux sont complètement vent debout. Ils considèrent que c'est une logique purement économique. Plus les syndicats de salariés, d'ailleurs, que les syndicats de patrons. Ils estiment qu'il y a 4 milliards d'euros qui sont économisés tous les ans. Du côté du gouvernement, on explique que cette réforme fait partie de l'arsenal des réformes qui doivent conduire au plein emploi. Il est clair qu'on a repris globalement les idées du rapport du Conseil d'analyse économique qui, en janvier 2021, avait donné à peu près toutes les principales directions auxquelles on assiste aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris le système, la bascule rouge-vert, mais voilà comment ça va se passer.
Non, c'est neuf.
C'est
et
neuf.
Et puis, on joue sur la typologie de la variation.
Niveau de dégradation autour de 0,8, et sinon 9, c'est vraiment le marqueur principal à avoir en tête.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le CAC perd 0,2%, 6630 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille pour Social Care Consulting Sonia Emlinger. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'être passé nous voir. On va être pédago ce matin. On va d'ailleurs ouvrir, parce qu'on y reviendra aussi sur la retraite avec Christian Fontaine. On va évoquer la retraite et on va commencer par un point très pédagogique avec vous. D'abord, comment ça marche la retraite ?
Alors effectivement, on a tendance à bien connaître les outils pour se constituer sa propre retraite, mais on est souvent mal informé sur les droits que l'on a déjà acquis des retraites de base. Donc comment ça marche ? Alors déjà en France, la retraite moyenne, elle est de 1654 euros par mois. L'âge moyen de départ à la retraite, il est de 62,3 ans et l'espérance de vie après avoir pris sa retraite, il est de 25 ans. Donc il y a plusieurs régimes. Donc il y a le régime de base qu'on appelle retraite par répartition.
D'accord.
Donc il va y avoir le régime de base et la complémentaire et le régime par capitalisation. Donc c'est-à-dire toutes les retraites type entreprise, PER obligatoire, PERCO article 83, les retraites individuelles donc type assurance vie, type également on va dire immobilier, pourquoi pas. Mais le système de retraite français, il est fondé sur quatre principes. Tout d'abord, il est obligatoire. Dès qu'on est salarié et qu'on cotise, on est obligé de cotiser. Ensuite, il est fondé également sur un système solidaire. Donc, si vous avez eu des arrêts de travail, du chômage, une maladie, vous pourrez rajouter ces périodes à votre retraite. Il est également, donc par répartition, on l'a dit, puisque aujourd'hui, ceux qui cotisent financent les retraites, les retraités actuels. Et pour finir, il est contributif. C'est en fonction de ce qu'on va cotiser que l'on aura une retraite et qu'on saura exactement à quoi on a le droit.
Il y a aussi tout ce qui est facultatif, tout ce qui est complémentaire, non ?
Tout à fait. Alors, tout ce qui est facultatif, ça va être vraiment la constitution par capitalisation de sa retraite. Et là, ça va être l'assurance vie, l'immobilier, les PER, etc.
Et ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Hein. C'est
tout
pas automatique.
Tout
bon, comment juste est calculée la retraite de base, celle que tout le monde va toucher finalement ?
Oui. Alors, la retraite de base, déjà, il y a évidemment certains critères. Donc, si vous êtes né après 1955, vous pourrez prétendre à la retraite après 62 ans et en ayant cotisé entre 160 et 172 trimestres, donc entre 40 et 43 ans de cotisation. Comment elle est calculée ? On va prendre, pour les salariés et les professions indépendantes, la moyenne des 25 meilleures années avec un taux maximum à 50%. Et pour les fonctionnaires, ce sera les 6 derniers mois avec un taux maximum à 75%. Sachant qu'à 67 ans, vous avez le taux plein de façon automatique. Ensuite, il y a les régimes complémentaires obligatoires, donc type Agirc-Arrco. Et là, ça va être une retraite à points. Donc là, en fonction de ce que vous avez cotisé, vous aurez un nombre de points. Et l'année N où vous allez prendre votre retraite, eh bien, il y aura une valeur du point cette année-là. Vous allez le multiplier par la valeur.
Y a quand même des histoires de décote qui parfois surviennent.
Oui, alors il peut y avoir décote ou surcote. Donc décote, c'est si vous n'avez pas acquis le nombre de trimestres suffisant, et vous pouvez quand même partir à la retraite, mais avec une décote, donc c'est 1,25% par trimestre non cotisé. Et une surcote, si vous avez acquis les trimestres et l'âge, et que vous décidez quand même de continuer à travailler, eh bien vous avez une surcote.
Alors, si ça, c'est voilà, dans le monde où tout va bien, où je vais au bout de mon temps de travail et que je pars à la retraite et que je suis en bonne santé, tout ça. Bon, si les choses se passent moins bien et qu'on décède, oui, tout est perdu ou le conjoint a droit à quelque chose ?
Alors, effectivement, en France, on a le droit à une pension de réversion. Alors, tout d'abord, il faut être marié. Hein, le PACS et le concubinage ne fonctionnent pas. Il faut avoir au moins 55 ans. Donc, pour les travailleurs indépendants et les salariés, il y a des conditions de ressources pour la retraite de base. Elle va être de 54% de la retraite du défunt. Et ensuite, il y a les complémentaires pour les salariés. Il n'y a pas de plafond. Pour les indépendants, il y en a, mais c'est assez élevé. Et le calcul, il va être de 60% pour le conjoint survivant.
Voilà donc le cadre. Après, autre spécificité qui peut survenir, c'est que je fais toute ma carrière en France, donc on imagine qu'on est dans le panorama dans lequel on vient de parler. Mais si on a été une partie ou tout ou partie de sa carrière à l'étranger, qu'est-ce qui se passe ?
Alors effectivement, si vous avez été travailleur détaché, là c'est assez simple, c'est comme si vous aviez jamais quitté le territoire français.
D'accord.
Par contre, si vous avez été expatrié ou en contrat local, là ça va dépendre des règles, des conventions internationales entre la France et le pays dans lequel vous avez été expatrié. Donc effectivement, sinon vous pouvez aussi cotiser à la CFE, la Caisse des Français à l'étranger. Il y a une quarantaine de pays à peu près qui ont signé des conventions donc hors Union européenne avec la France. Donc là, vous pourrez récupérer ces périodes à l'étranger et les cumuler avec votre retraite en France. Si ce sont des pays qui n'ont pas signé de convention avec la France, là, la retraite va se prendre, va être calculée par pays. Donc il faudra bien sûr vous renseigner dans le pays.
Aller toucher un pouillem, je ne sais pas où.
Voilà, parce que vous pourriez éventuellement avoir une retraite dans ce pays-là, mais en tous les cas, elle ne sera pas rattachée à la retraite française.
Bon, bah on s'est dit pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en conclusion, quoi, il faut s'y préparer de toute façon.
Tout à fait, exactement. Donc déjà, la retraite de base ne sera pas suffisante comme on vient de le voir. Donc l'idéal, bien sûr, c'est de se faire accompagner pour toutes ces démarches et ces stratégies optimisantes de retraite. Il y a également des possibilités de rachat de trimestre pour optimiser ou de cumul emploi-retraite. Nous pourrons peut-être en parler une prochaine fois.
Et avec plaisir, on note ça. Sonia Imlinger, donc Social Care Consulting, qui nous accompagnait ce matin. Et on continue, nous, dans un instant, à parler retraite avec Christian Fontaine. Dans l'intervalle, on va aller faire un petit détour sur les marchés.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Le marché qui, pour le moment, évolue sous son niveau de clôture de vendredi soir. On semble vouloir essayer de revenir tutoyer ce niveau, mais pour le moment, on reste en dessous pour 0,17%, 6633 points. Ailleurs en Europe, la tendance est assez similaire, moins 0,23% pour l'Eurostoxx 50. Du côté des principaux arbitrages, on a des baisses sur Schneider, sur Téléperformance, sur Dassault Systèmes ou encore sur Legrand. Et puis, quelques hausses tout de même. Avec Vivendi, plus 1,02%, 8,54€. Engie, plus 0,92€ à 14,51€. Encore Bouygues, plus 0,87€ à 29,14€. L'eurodoll est à 1,0235.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Christian Fontaine, bonjour.
Bonjour Cédric, bonjour.
Pour la rédaction du Revenu, vous nous accompagnez chaque lundi et on continue sur cette thématique retraite, une demi-heure spéciale consacrée à la retraite. Partenaires sociaux et gouvernement ont démarré le 15 novembre le deuxième cycle de discussion sur ces retraites. Sur les réseaux sociaux, il y a pas mal d'idées reçues qui fusent et tout particulièrement sur cette question de retraite. Faut dire qu'il y en a qui se glissent un petit peu dans les débats pour aller pousser leur intérêt ou leur vision des choses. Il faut se méfier un petit peu de tout ce qu'on lit, c'est-à-dire qu'il faut savoir qui est l'auteur de ce qu'on lit.
Alors bien sûr, rentrons directement dans le vif du sujet si vous voulez bien Cédric. Première idée reçue, notre système de retraite mis en place après la guerre va s'effondrer. Les établissements publics, la CNAV, l'AGIRC, l'ARCO vont déposer le bilan. Non, notre système de retraite est précaire. Notre système de retraite par répartition va subsister. Les outils pour éviter une catastrophe sont connus, sont toujours toujours les mêmes. Baisse du montant des retraites, hausse des cotisations, allongement de la durée de cotisation, hausse de l'âge minimum pour pouvoir profiter de cette retraite versée par les régimes obligatoires. Tout ça est connu. Donc, vous toucherez, quel que soit votre âge, une retraite versée par les régimes obligatoires. N'oublions pas non plus, peu ou prou dans la catégorie des bonnes nouvelles, c'est que vont arriver à l'âge de la retraite une génération de couples où souvent monsieur et madame ont travaillé, puisque le travail des femmes s'est généralisé dans les années 60 et 70. Donc deux pensions versées par les régimes obligatoires, c'est toujours plus facile qu'une seule pour boucler ses fins de mois.
On est d'accord. Donc voilà pour la première idée reçue. Deuxième idée reçue, aujourd'hui il est impossible de savoir combien je toucherai demain.
Alors là aussi c'est faux, il y a un site qui est public, qui est très très bien fait, qui s'appelle info-retraite.fr, qui a été mis en place à la suite de la réforme de 2014 et qui permet à tout un chacun, à partir de 45 ans, d'avoir une idée très précise sur les droits qui ont été accumulés au fil des ans, et également sur votre futur le montant de votre pension versé par le régime de base et par les régimes complémentaires, en fonction de votre âge de départ, bien sûr, à la retraite, et en fonction de mémoire, ces trois scénarios de fin de retraite, un scénario très favorable, un scénario où votre revenu sera plutôt stable, un scénario où il aura plutôt tendance à baisser. Alors, Il y a des bugs comme sur tous les sites internet. Il n'empêche que ça vous permettra d'avoir une idée très précise, peu ou prou, de combien vous allez toucher en fonction, bien sûr, de la législation actuelle. Mais c'est déjà, je dirais, ça va vous permettre une prise de conscience. Et c'est ça l'élément important. Il faut savoir que pour bon nombre de cadres qui feraient cet exercice aujourd'hui, en novembre 2022, vont se rendre compte, des cadres nés dans les années 60, 70, début des années 80, que peu ou prou, leur pension ne représentera à peine la moitié de leur dernier salaire d'activité. C'est très simple pour connecter. Vous utilisez soit votre compte Amélie, vous pouvez utiliser vos numéros fiscaux ou vous passez par l'intermédiaire de France Connect, qui est la nouvelle solution proposée par l'État pour se connecter à tous les services publics.
Ouais, il y a quand même quelques bugs qui devraient se résoudre, mais notamment puisque vous évoquiez le travail des femmes, les femmes qui ont eu des enfants, vraisemblablement la surcote entre guillemets des enfants n'est pas prise en compte et a tendance à minorer en ce moment la retraite des femmes.
N'est pas forcément prise en compte de toute façon.
Alors qu'elle le sera naturellement.
Bien sûr.
Au moment de la prise de retraite.
Sur les relevés de compte, de toute façon, il y a les relevés de points, il y a aussi un certain nombre d'erreurs. Mais l'objectif, de toute façon, c'est totalement impossible, lorsque vous avez 45 ou 50 ans, d'avoir une idée, je dirais, à l'euro près. L'avantage de ce simulateur, c'est qu'il est d'abord basé sur vos vrais relevés de carrière. Et ensuite, c'est que il y a différentes simulations possibles. Et on peut penser, si vous voulez, que les simulations ont été faites avec des critères relativement, restrictifs pour éviter tout souci à la CNAV, etc.
De très mauvaises surprises,
a priori, bien sûr, même si nos régimes de retraite et les retraites vont continuer à baisser par rapport aux générations précédentes.
Troisième idée reçue, à la retraite, on paye moins d'impôts et de prélèvements sociaux.
Alors, ça, c'est vrai et faux. C'est vrai pour les prélèvements sociaux, puisque les cotisations sociales, ça représente environ 22% quand vous êtes salarié, 22% de charges sociales, contre 10,1% lorsque vous êtes à la retraite. Par contre, c'est faux en ce qui concerne les impôts. Lorsque vous êtes à la retraite, forcément, peu ou prou, vous allez profiter que d'une part de quotient familial contre parfois, alors une ou deux si vous vivez en couple, mais contre souvent 2,5 ou 3 lorsque vous aviez été en activité, puisque vous aviez profité des enfants qui étaient sur votre déclaration de revenus. Autre élément clé, vous savez que vous profitez en tant que salarié d'un abattement pour frais professionnels. Alors vous profitez aussi d'un abattement pour frais professionnels lorsque vous êtes retraité. Donc là, vous pouvez sourire un tout petit peu, effectivement. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que sur le plan technique, le taux est identique, c'est 10%, sauf que en fait, la méthode de calcul est très différente. Le plafond, c'est un plafond individuel lorsque vous êtes salarié et c'est plafonné à quelque 13 500 euros, tandis que lorsque vous êtes à la retraite, c'est un plafond pour l'ensemble du foyer fiscal et c'est plafonné à 4 100 euros. C'est pas du tout pareil. Enfin, troisième élément qui explique que très souvent les impôts baissent pas à la retraite, c'est que la tranche de 30% à laquelle sont soumis de nombreux cadres est une tranche très large puisque ça va de 27 000 à 79 000 euros la part. Donc à votre retraite, votre TMI, votre taux marginal d'imposition, donc alors le taux auquel est taxé 1 euro de revenu supplémentaire a toutes les chances de ne pas baisser. Donc vous allez payer moins d'impôts parce que vos revenus seront plus faibles, mais pas forcément dans la proportion que vous pensez.
Dernière idée reçue, la préparation d'une retraite est réservée et l'apanage des plus privilégiés.
Alors ça, bien sûr, c'est faux. Vous en parlez souvent sur votre antenne pour acquérir un petit bien locatif. Eh bien, selon les périodes, donc alors, mais il faut au minimum, au maximum, un certain nombre de cas, le montant des droits de notaire. Hein. Donc, pas de capital de départ. Les contrats d'assurance vie, c'est comme la bourse, c'est accessible. Les contrats d'assurance vie en ligne, en tout cas, sont accessibles avec quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros. Je dirais que la seule exception, c'est les placements à gomme fiscale dédiés à la retraite. Par définition, ils ne s'adressent qu'aux 18 millions de Français tout de même, donc alors, qui payent l'impôt sur le revenu.
Bon, pour terminer, un peu comme je proposais à Sonia tout à l'heure, de faire une petite conclusion, de voir un petit peu quelles leçons on tire de ces idées reçues.
Alors, il y a deux leçons. D'abord, arrêtons de faire l'autruche. Hein. Il faut savoir qu'il y a, selon un sondage relativement récent de l'IFOP pour l'UFF, un retraité sur deux qui vit finalement moins bien que ce qu'il aurait pensé. Et il n'y a que 35% environ des retraités qui déclarent avoir mis de l'argent de côté pour leur retraite. Donc, arrêtons de faire l'autruche. Regardons les chiffres en face. La retraite égale une division par deux de ses revenus pour la plupart des cadres et des professions libérales. Professions libérales, ça peut mettre pire. Enfin, on met en place un plan d'action. Vous connaissez le plan d'action du revenu. Un, acquisition de la résidence principale. Deux, on se dote d'une épargne diversifiée en bourse, immobilier, assurance vie. Et trois, on souscrit des produits à gomme fiscale. Voilà, quel que soit le résultat de la réforme des retraites, donc en négociation actuellement avec les partenaires sociaux, de toute façon, il faudra mettre de l'argent de côté pour ces vieux, pour nos vieux jours. Arrêtons de pleurnicher. Des fonds de pension à la française, il en existe. C'est le PER, c'est l'assurance vie. Donc, retroussons-nous les manches et mettons de l'argent de côté pour nos vieux jours en fonction, bien sûr, de vos moyens financiers.
Christian Fontaine et la rédaction du Revenu qui reste à nos côtés. On se retrouve tout à l'heure, Christian, pour répondre aux questions de nos auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire à BFM Patrimoine, à bfmbusiness.fr. Et puis, il y a les replays qui vous attendent également sur notre site et qui vous permettent de réécouter tout ou partie de l'émission à votre convenance. Dans un instant, un détour sur les marchés grâce à Antoine Larigauderie. Le CAC est en repli de 0,18%. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.